Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo, aujourd'hui, deux coups de cœur ciné pour le prix d'un, le premier consacré au film La Femme 2 avec David Roux et Eric Caravaca qui vont nous rejoindre dans une poignée de secondes. Et puis en fin d'émission, coup de cœur cinéma Sauvage qui sort aujourd'hui également dans les salles. Camille Poncin et Lou Lamprault, ce sont nos invités exceptionnels pour en parler. Et puis on a également la chance aujourd'hui de dérouler nos coups de cœur télé aujourd'hui avec la mini-série Je sais pas qui débarque ce soir sur France 2. À cette occasion, nous allons recevoir le producteur Sébastien Charby, le réalisateur Fred Grivois, mais également les actrices Lola Devers, Alison Paradis et la petite Élodie Bâtard-Gauthier qui est absolument incroyable. Constance Gay sera également notre invitée aujourd'hui pour le grand retour de Flashback, ça sera jeudi sur TF1. Et puis nous allons revenir également sur cette intrigue folle qu'on a vécue dans Demain nous appartient avec Raphaël Langlais. Il va également nous parler des premières infos sur Caméra Café, le grand retour sur M6, dont il est également le réalisateur. Et puis également cette semaine en exclu podcast, nous allons recevoir Mathieu Leblanc et Thomas Mansuy qui sont les créateurs et surtout les auteurs de Lucky Luke qui vient de revenir sur Disney+. Et puis nous aurons également le plaisir de parler de Claude Maquet, Errance d'un poète disparu, qui débarque cette semaine sur France 2 en deuxième partie de soirée. À cette occasion, le réalisateur Mathieu Verdeil et le compositeur Lamine Diagne, qui a été d'ailleurs primé au festival de Luchon, seront avec nous pour en parler. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore une fois aujourd'hui. Dans Chut, on écoute la télé, on démarre tout de suite avec notre premier coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma s'appelle La Femme 2, ça sort mercredi dans les salles. Un film de David Roux qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour David.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Il n'est pas venu tout seul David, puisqu'aujourd'hui on a Eric Caravaca également qui est avec nous. Bonjour Eric.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux. Alors on va y compter dans cette histoire, l'histoire de Marianne, qui est donc la femme du personnage que vous jouez, Eric, qui est un riche industriel lorrain. On va dire qu'il est un petit peu dans une prison dorée. C'est un peu l'histoire d'une émancipation, La Femme 2.
Oui, oui, d'une certaine façon, c'est un film d'émancipation féminine qui prend la forme d'un thriller domestique, d'une femme qui est à un moment de sa vie où elle prend conscience que cette grande maison bourgeoise, cette famille d'industriels où tout est très confortable, tout est très policé, en fait sa condition là, malgré les apparences, est probablement insupportable, que cette maison magnifique est une prison dorée. Ouais.
Mais une partie de son passé pourrait bien ressurgir et changer un petit peu la donne, en tout cas dans ce film, alors qui est, je crois, adapté d'un roman.
Oui, complètement, un roman d'Hélène Lenoir, paru en 1998 aux éditions de Minuit, qui s'appelle Son nom d'avant. Oui, qui est un point de départ, que, tout de suite en lisant le roman, j'ai vu dans le personnage de Marianne un potentiel grand personnage, grande héroïne de cinéma comme il y en avait dans les années 50 dans le cinéma américain, les grands mélodrames qui ont, moi, forgé ma cinéphilie. Après, l'enjeu toujours de l'adaptation, c'est de trouver le langage cinématographique. Voilà, donc là, ça passe par l'incarnation des personnages. Il y a un des personnages qui est la maison elle-même. Donc, on a trouvé quand on a trouvé le décor, j'ai eu l'impression que le casting était enfin terminé. Et bien sûr, le film tient beaucoup sur les acteurs. J'ai eu la chance de tourner avec Mélanie, qui est une Marianne, je trouve... magnifique, indéchiffrable, dans lequel je crois les spectateurs pourront chacun voir ce qu'ils souhaitent y voir, et toute une troupe qui a offert au film vraiment des partitions très singulières. Les hommes du film sont assez odieux de manière générale, et pourtant on s'est dit avec chacun, avec Eric, avec Jérôme Deschamps, avec Arnaud Valois, qu'on allait les défendre. Voilà, qu'on allait trouver l'humanité de ces personnages. Ils sont tous de bonne foi, ils sont des produits de leur milieu.
Et c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'on n'arrive pas à le détester, en fait, le personnage d'Eric. Et pourtant, il y va.
Oui, pourtant, il est détestable, mais on n'arrive pas à le détester parce qu'il est de bonne foi. Il est complètement lui-même, il est à la place que le monde dans lequel il a toujours vécu.
C'est normal pour lui.
Exactement.
Exactement. Alors Eric, c'est vrai que c'est un rôle. Alors tout commence par la mort de maman, donc il reste papa à s'occuper. Donc votre personnage va prendre la décision de venir habiter dans cette maison. Il impose à sa femme de venir habiter, en tout cas, dans cette grande maison. Et alors ça va pas être du goût de tout le monde, évidemment. C'est ce que vous verrez dans le film. En tout cas, tout commence par là, et cette histoire d'héritage où il décide de racheter la propriété, les parts à chacun des héritiers, ce qui va créer une ambiance familiale un peu compliquée.
Un peu compliquée, un peu tendue. Ils sont tous sous le joug et le silence et les non-dits du pouvoir d'une famille riche qui a du pouvoir. Et donc on sent quand même à travers cette première séquence que nous avions tournée, David vous le dira, le premier jour, la première séquence qu'on a tournée du film, c'était celle-ci, et qui mettait tout le monde dans cette ambiance très lourde de ces familles bourgeoises, de pouvoir, de non-dit, de choses tues qu'on ne dit pas, qu'on cache, et qui fait que chacun est finalement pas très à l'aise avec lui-même, mais se le cache aussi. Enfin, bon, c'est tout ce poids des familles, et en même temps, oui, effectivement, le personnage était, on n'arrive pas à le détester, mais il fallait aussi ça pour comprendre que Marianne ait pu tomber aussi à un moment amoureuse de cet homme, et puis vivre dans cette famille, avant de se rendre compte que le piège se refermait, que l'air était devenu rare et de plus en plus rare même. Voilà, donc jusqu'à cette maison, justement, on parlait de cette maison, ça m'a frappé dans le film, ce beau window où au début on trouve ça assez beau, la végétation est belle, et à la fin on n'en peut plus, quoi. On voit pas l'horizon, on a l'impression d'étouffer dans une navette spatiale, quoi. Enfin,
quand on lit le scénario, Eric, c'est ce qu'on ressent tout de suite à travers le personnage, justement, cette espèce d'asphyxie au départ.
Oui, quand on lit le scénario, on voit que c'est un scénario sur un personnage qui est cette femme. Et donc après, on a envie de rejoindre cette atmosphère. Moi, j'avais envie de rejoindre l'atmosphère que David avait déjà placée dans l'Ordre des médecins, dans son premier film. Et puis de jouer avec Mélanie, que j'avais vu aussi dans La douleur de Finkiel. Et puis, on a envie de ça. C'est pour ça qu'on a envie de participer à cette belle histoire.
On écoute la bande-annonce La femme de sort mercredi au cinéma. On revient juste après avec Eric Caravaca et David Roux, qui sont nos invités aujourd'hui. À tout de suite.
Cette maison, c'est au-dessus de mes forces. C'est sa famille. À une époque, rien que l'idée de travailler avec ton père, ça te rendait malade. T'as repris sa boîte et maintenant tu voudrais vivre ici. Il priait pour avoir un garçon, pour avoir un héritier à qui passer la main, comme son père, comme son grand-père.
Rien ne t'obligeait à acquérir nos parts. Aucun de nous ne demandait ça.
Épargne-nous tes délires paranoïaques.
Ma chambre d'enfant, le paradis perdu.
Mais viens chez moi. J'ai pas ton courage, Lily. C'est sûr que quand on est un casella, on n'a pas les moyens de se payer quelqu'un qui viendrait le matin pour lui faire la toilette et puis l'écouter radoter. Enfin, je demande bien à quoi serviraient vos femmes.
Allez, de retour pour notre spécial La Femme 2, un film avec Eric Caravaca, avec Jérémy Régnier, Mélanie Thierry, bien évidemment Arnaud Valois aussi. Chaque second rôle est pesé et un équilibre où chacun a sa place malgré tout dans le scénario. Donc ça, j'imagine qu'il y a tout le travail d'adaptation du roman qui a été fait là-dessus pour donner une importance à chaque second rôle. Pour le coup, David ?
Oui, alors moi j'ai un amour profond pour le second rôle. Et je dis à chaque comédien qui vient sur le plateau pour incarner comme ça, même deux jours, même une journée, Je dis que chacun de ces personnages pourrait avoir leur propre film. Donc oui, il y avait un enjeu pour toutes les sœurs, pour toute la famille, pour...
Il y a cette jeune fille du premier plan, qu'on découvrira plus tard qui elle est et comment voilà, les choses évoluent, mais jusqu'à cette jeune comédienne.
Oui, tous les personnages du film, même les quasi-muets comme Annette, la sorte de gouvernante de cette famille. Voilà, je voulais les penser comme des personnages à part entière. Tous des acteurs, qui, bien souvent des acteurs et des actrices de théâtre que j'adore. J'étais journaliste de théâtre pendant 15 ans, donc j'ai eu l'occasion de les découvrir et d'avoir beaucoup d'amour et d'admiration pour eux. Et en même temps, les acteurs ont leur place, les personnages ont leur place. Parce que dans cette famille et dans ce monde-là, chacun doit être à sa place.
Et j'allais venir justement parce que dans la réalisation ou dans la mise en scène, il y a quelque chose de très théâtral justement, ça tombe bien que vous le disiez David, parce que j'ai trouvé que c'est un film qu'on pourrait très bien voir adapté aussi au théâtre, avec ce genre un peu de décor unique, avec tous ces personnages qui gravitent autour, mais aussi quelque chose de très théâtral parce que ça joue quoi.
Ça donnera peut-être des idées à certaines personnes, je ne sais pas. Mais oui, c'est il y a une unité de lieu qui peut faire penser effectivement au théâtre. Il y a une attention pour le détail du dialogue, pour les petits mots qui peut-être semblent être anodins, mais ne le sont pas. Une construction comme ça, un peu par empilement, oui, qui est assez de nature assez proche du théâtre. Oui.
Et où chaque brique a son importance dans l'empilement, justement, Eric.
Jeanne Rosa, Sarah Le Picard. Oui. Voilà, les personnages secondaires qui jouent les sœurs qui sont absolument magnifiques. Jeanne, elle a une petite partition, elle est extraordinaire. Avec deux mots, une intonation, elle fait tout. Voilà. Non, on parlait des, je reviens aux personnages secondaires qui sont hyper importants dans ton univers.
Eric, comment on pourrait le définir ce personnage justement?
Ben, c'est un personnage, je sais pas si on peut toujours définir les personnages, c'est des gens complexes. Ce qui aurait été pas bien, c'est de simplifier un personnage comme ça, d'en faire un connard ou un type, bon voilà, il est pas que ça, et c'est pour ça qu'on, les gens sont, la simplification des personnages est toujours, et pas que des personnages. En général, la simplification, c'est toujours assez meurtrier et pas toujours très intelligent. Donc,
et c'est cette complexité qui est intéressante à jouer pour un comédien.
Voilà, c'est surtout quelqu'un qui est aveugle à son endroit. Et c'est ça qui est important. Alors, j'allais dire qu'il faut, il faut jouer ça. C'est presque comme une comédie. Une comédie, vous jouez pas en essayant de faire rire. Là, vous jouez pas en essayant d'être un salopard. Vous jouez la situation. Et c'est ça qui fait le personnage. Beaucoup. Il faut être d'une grande sincérité. Voilà. La situation fait le reste, j'allais dire.
Alors, on est à 2 jours de la sortie du film. Donc, évidemment, vous avez vu le film, Eric. Quelle a été la scène que vous avez préférée?
Finalement, dans le film, on adore voir le personnage principal. Moi, j'aime beaucoup les scènes aussi de solitude. J'aime beaucoup notre première scène aussi, avec tous les frères et sœurs. Ça, vraiment, cette scène, elle est...
La distribution des enveloppes?
Oui, la distribution des enveloppes. Et puis, j'aime beaucoup, par exemple, les plans d'Arnaud Valois, que je trouve formidable dans ce film, quand il est là, mécontent d'être lui-même aussi, mais en même temps pervers, en même temps... très doux, très beau, enfin, terrifiant quoi finalement aussi. J'aime beaucoup ces plans-là, ça m'a beaucoup touché. Et puis Mélanie aussi, c'est dans la voiture qui est là, qui veut partir et qui va partir. Et ça, j'ai trouvé ces moments de silence très chargés.
Ouais, j'ai trouvé il y a des plans en tout cas entre Mélanie et son petit garçon. Et les fils du couple, très chargés en émotions, mais on vous laissera le découvrir dans le film. En tout cas, on vous invite à découvrir La Femme 2, c'est mercredi au cinéma. Merci infiniment Eric, merci David d'être venu nous en parler. Et puis à 2 jours de la sortie du film, on se sent comment David, pour le mot de la fin?
Fébrile et heureux, heureux de partager le film et que ce personnage se libère vraiment.
La Femme 2, mercredi dans les salles, merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Anna. On se connaît. Qu'est-ce que vous voulez?
Vous vous souvenez vraiment pas? J'ai jamais oublié votre regard.
Ma fille prétend que je suis morte à sa naissance. Elle sait pas comme elle a raison.
Combien pour rester avec toi?
Ça va pas ou quoi?
Tim, qu'est-ce qu'elle t'a dit, maman?
Rien.
Rien, alors elle est partie comme ça.
Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel?
C'est quoi, ces petits secrets?
Ça te regarde pas. Je suis là, mon ange.
On revient avec... avec nos coups de cœur télé dans quelques instants. Constance Gay va venir nous rejoindre, Lola Devers et pas que. Beaucoup de surprises nous attendent avec également Raphaël Langlais. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé. Audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
On va découvrir cette semaine sur France 2 la mini-série Je sais pas avec le producteur Sébastien Charby qui est avec nous. Bonjour Sébastien.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous et Fred Grivois également qui est avec nous, le réalisateur. Bonjour Fred.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, on va recevoir d'ailleurs aussi Lola Devers, Alison Paradis. Cette mini-série est tirée du roman, je sais pas, de Barbara Abel, qui est un vrai best-seller. Qu'est-ce qui vous a donné envie de produire et de réaliser tous les deux cette mini-série?
La thématique, c'est quand même fou d'avoir une histoire. On a eu tellement d'histoires où les enfants disparaissent et tout ce qui a l'horrible dessus. Bah, nous, notre série, elle commence quand l'enfant revient et que cet enfant qui revient nous cache quelque chose. Et le je sais pas, il est en forme de qu'est-ce qu'on nous cache. Et comme c'est une enfant qui est à la fois attachante, à la fois inquiétante, on a envie de découvrir qu'est-ce qu'elle nous cache et qui elle protège. Et ça, c'était une thématique qui donnait très envie. Fred.
Moi, j'arrive assez tard dans le projet, puisque tout est déjà écrit. J'ai 4 enfants, j'ai des parents psychiatres, tous les deux. Et donc, cette question assez étonnante de se demander si on n'a pas engendré un psychopathe, je la trouvais formidable à se poser et assez amusante à essayer de mettre en scène.
Alors, il est vrai qu'on va découvrir en tout cas Emma, qui va donc en sortie de classe. Cet enfant de 6 ans va disparaître dans la forêt. Une battue va se mettre en place pour essayer de la retrouver. Et donc, Emma va réapparaître comme par miracle. Sauf que maintenant, c'est sa maîtresse partie à sa recherche qui disparaît à son tour. Mais Emma, elle, porte le bandana de sa maîtresse. Et quand on lui demande ce qui s'est passé, elle répond tout simplement « je sais pas ». On part un peu de ce postulat. Et c'est vrai que la petite là, elle est glaçante, hein, la petite Emma. Là. On se demande si c'est un ange ou un démon finalement.
Absolument. C'était le challenge de trouver une enfant aussi jeune, telle qu'elle était écrite. C'est jamais facile. Moi, j'ai tourné avec beaucoup d'enfants. Et on est tombé sur la perle rare d'une enfant qui a la maturité de jeu et d'actrice de quelqu'un qui aurait, je sais pas, 20 ans d'expérience. C'est pas donné à tout le monde. Et c'était formidable de tomber sur cette petite Élodie, qui est un jeu parfait, au niveau de tous ses partenaires.
Sébastien, comment s'est passée justement la négociation avec Barbara pour adapter son roman? Est-ce qu'elle a eu un œil sur le scénario? Est-ce qu'elle vous a accompagné au fur et à mesure?
Non, ça s'est passé très simplement. On l'a rencontrée, on l'a vue pendant 2 heures avec Olivier. On lui a dit ce qui nous intéressait dans le sujet, à savoir cette thématique-là. Et on a parlé et on lui a demandé pourquoi est-ce qu'elle s'était mise à écrire là-dessus. En fait, les raisons pour lesquelles elle avait commencé à écrire là-dessus, c'est exactement ce qui nous avait intéressé dans le projet. Et donc, on a passé, je vous dis, 2 heures. Et puis après, on s'est dit, on parle de la même chose. On lui a dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Tu lis les scénars? Tu as dit, non, vous me les tous envoyez, mais vous avancez. Olivier, le prieur, le scénariste, expliquait ça assez bien. Elle est romancière et scénariste. Donc, elle a complètement conscience que quand elle cède les droits, il y aura une autre œuvre qui va se créer. Et bah, là, une autre œuvre, c'est un scénario avec des personnages qui se développent aussi un peu différemment. Mais on n'a pas trahi, je pense, ce qui l'intéressait quand elle a commencé à écrire le récit. Donc, c'était assez facile.
Fred, tu as lu le livre ou pas avant? Justement, t'as préféré rester un peu frais du scénario et de pouvoir te faire ta propre adaptation.
Je l'ai toujours pas lu, donc c'est assez amusant pour moi d'entendre les autres parler des thèmes qui les ont attirés dedans, parce que finalement ils sont assez différents de ce qui moi a pu m'attirer, avec un œil plus de réalisation, une vision beaucoup plus technique en fait de l'histoire que pouvaient avoir les autres en l'abordant. Non, j'ai cru comprendre que ça commençait pareil, qu'à un moment on s'échappait pour raconter quelque chose de différent, mais qu'on retombait sur nos pattes, que les fins étaient assez similaires. Voilà
pour ceux qui ont lu le livre, il y aura quand même donc quelques surprises qui vont vous être réservées. Le casting dingue, Lola Devers, David Kamenos, Élodie Bâtard-Gauthier, hein, qu'on va découvrir, la petite Emma, Hubert Delattre, Michael Abitbol, Alison Paradis, qu'on va recevoir dans un instant. En tout cas, il y a un super cast autour.
Oui, pour une partie, je les connais très bien, parce que c'est des gens avec qui je travaille depuis une dizaine d'années, hein, que ce soit Alison Paradis, Michael Abitbol ou Hubert Delattre.
Et combien d'enfants pour la petite Élodie, pour la trouver?
Moi, il m'est arrivé 80 noms sur des fichiers, mais il y en a beaucoup plus qui ont été vus en amont, quoi.
Oui, ça, c'était à shortlist.
Et voilà, Élodie, c'est toujours compliqué quand on casse des enfants, parce que on a un réflexe naturel pour gagner du temps de se dire on va caster plus vieux, on va caster un enfant qui est plus âgé mais qui a l'air plus jeune, pour avoir une espèce de maturité juste pour nous en tournage. Là, il se trouve que c'était pas le cas. On a trouvé la perle rare, ça a mis du temps. Élodie avait un truc de capacité à écouter les directions que je lui donnais, même si elles étaient contradictoires, et c'est ça la force d'une grande actrice. C'est-à-dire que si je lui dis il faudrait faire cette scène joyeuse, et qu'en fait on se dit il faudrait la faire malheureuse, donc on est sur des émotions totalement opposées, et d'être capable de le faire d'une prise à l'autre, ça normalement c'est des acteurs ou des actrices qui sont totalement confirmés et qui ont 15 ans d'expérience.
Il y a naturel assez frappant chez les enfants aujourd'hui, hein, quand même, qui joue.
Ouais, mais justement, en général, on caste en fonction d'un naturel pour pas avoir à s'embêter. Et ben non, là on voulait
gratter un peu.
Ouais, puis il faut quelqu'un qui puisse nous montrer une palette d'émotions. Voilà, on veut une enfant qui soit capable de manipuler les adultes. Donc il faut qu'elle soit capable de nous montrer que elle manque, qu'elle soit capable de nous jouer des émotions assez complexes, qui va au-delà d'un naturel pur, pour qu'en montage on ait le choix, pour qu'on puisse et qu'elle soit force de proposition, ce qu'elle a été, ce qui était assez marrant, parce qu'il y a plein de choses où elle me disait moi, à mon âge, je ferais pas ça. Et même si j'ai 4 enfants, il y a des trucs où je me suis dit, mais elle a totalement raison. C'est ça aussi, c'est que Élodie, elle est force de proposition. Et chez une enfant à l'époque, quand on tourne, elle vient d'avoir 7 ans. Moi, j'avais jamais vu ça. Je suis pas sûr que je vais le voir souvent. Je tourne avec beaucoup d'enfants, c'est la première fois que je vois ça.
Je sais pas, c'est la mini-série à découvrir donc cette semaine sur France 2. Vous avez déjà l'intégralité sur France.tv, parce que vous allez voir que quand vous allez avoir vu les 2 premiers épisodes, ça va être très difficile de lâcher. Il vous restera encore le dénouement. On va recevoir Lola Devers, Alison Paradis dans une poignée de secondes. Alors surtout, ne bougez pas, on revient juste après la bande-annonce. On écoute, je sais pas. Merci Sébastien, merci Fred.
Merci.
Merci.
Déjà en intégralité sur France.tv.
Tu t'es fait mal, ma puce?
C'est le foulard de Jade, ça.
Tu l'as vu dans la forêt?
Je sais pas.
Tu as tué la maîtresse? T'es une sorcière, en fait.
Jade, elle est diabétique. Je sais même pas si elle a son insuline.
Tu crois qu'Emma aurait pu faire quelque chose à Jade?
Qu'est-ce que tu veux qu'une gamine de 6 ans fasse à une adulte?
Emma! Faut que tu parles! Dis-moi ce qui s'est passé!
Je sais pas!
Pourquoi t'as rien dit? Tu comprends que c'est important?
Je sais pas.
Elle
a le droit de pas se souvenir.
fait une grosse bêtise.
Je sais pas, inédit. Sur notre plateforme et ce soir à 21h10 sur France 2.
Allez, on continue notre spécial Je sais pas. Et ça y est, elles sont là. Chose première, chose due. Lola Devers est avec nous. Bonjour Lola.
Mais bonjour Alain.
Merci d'être là. Alison Paradis également est notre invitée. Bonjour Alison.
Bonjour.
Merci d'être là. Puis jolie surprise également. Elodie Bâtard-Gauthier, vous allez voir, vous êtes conquis par cette petite. Bonjour Elodie.
Bonjour.
Merci d'être là toutes les trois. Alison, je sais qu'il y a un train qui va partir dans pas longtemps, il va falloir que tu nous quittes. Mais cela dit, la première question que j'avais envie de te poser, qu'est-ce qui t'a plu dans ce rôle et surtout, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette série?
Moi, ce qui m'a donné envie, c'est de continuer mon travail avec Fred Grivois. J'avais hyper envie de retrouver Lola que j'avais croisée comme ça sur un plateau très furtivement. Et après, pour parler de la série, ce que j'ai aimé, c'est la complexité des personnages. Voilà, au fur et à mesure des épisodes, de découvrir de plus en plus de choses, à quel point tous les personnages étaient très riches, complexe, avec beaucoup, beaucoup de couches. Et moi, le personnage de Madeleine, d'arriver à jouer comme ça, une femme qui a l'air en apparence excessivement froide et très contrôlante, et de se rendre compte à quel point, en fait, elle est totalement brisée, et qu'elle a une faille énorme et un manque d'amour flagrant, quoi.
Et une maman, voilà, qui est en plein questionnement, effectivement, aussi, sur son enfant.
Exactement, et puis surtout... C'est pas forcément traité dans le sujet, mais sa fille, elle est pas du tout gentille avec ta fille, Lola, d'ailleurs. Et ouais, comme moi. Non, mais c'est ça. Et c'était super de jouer ce mimétisme avec la petite. Et voilà aussi, qu'est-ce que ça fait d'être maman d'une petite fille vraiment pas sympa.
c'est pas mal dit. Merci, Alison, en tout cas, de nous avoir dit ces quelques mots. On va continuer avec Lola et Elodie, bien évidemment. On te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup, Alison, pour ces quelques mots. Alors, Lola, même question. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en tout cas, de participer à cette aventure?
Le projet très original et culotté, on va dire, sur le fait de traiter de la part potentiellement sombre d'un enfant. Et un enfant est souvent traité comme une victime ou un angelot, voilà. Et là, je trouvais ça intéressant qu'on puisse à un moment donné pouvoir douter de l'innocence d'un enfant.
Ça, c'est intéressant. C'est vrai que ça n'a jamais été spécialement fait. Alors, c'est tiré d'un roman, je sais pas, de Barbara Abel, et c'est vrai que ça n'a pas été fait en France. Et donc, Elodie, toi, tu joues le rôle d'Emma, qui disparaît dans la forêt. Il va y avoir une battue pour te rechercher. Et donc, tout le monde va partir à ta recherche. Et toi, tu réapparais comme par enchantement avec un bandana au cou. Et c'est celui de ta maîtresse qui, elle, a disparu à son tour. Et là, t'es en train de me jeter le même regard qu'Emma.
Oui.
Oui. Elle est incroyable, cette petite. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ça?
Alors moi, c'était la première fois que j'allais faire un tournage. Donc, pour moi, c'était vraiment tout nouveau. Donc avec mes parents et mes frères et sœurs, on s'est dit pourquoi pas, ce serait une nouvelle expérience pour tout le monde. Alors du coup, j'ai fait mon premier casting et puis c'est comme ça que je suis arrivée vers Fred Grivois et puis Lola Devers et tout ce monde-là.
Comment elle est alors, Lola Devers, comme maman?
Je l'adore, j'adore Lola. Elle est vraiment très gentille et voilà.
Très intelligente. Et très belle.
T'as promis des bonbons ou quoi?
Non.
Bon, en tout cas, comment t'as fait? Alors, t'as écouté Fred qui te donnait des directives pour lancer des regards noirs comme ça pour faire la méchante petite fille?
Oui, il m'a beaucoup dit l'indication. Mais après, il y avait aussi mes coachs, Garniris et Clément, et ils m'ont beaucoup aidé sur ce tournage. Et après, il y avait aussi ma référente enfant, Anne, que je nomme Nanou, qui est vraiment très, 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 très gentille avec moi.
C'était ta nounou, sur le tournage?
Ma nounou.
Lola, quand on a quelqu'un comme Elodie qui te donne la réplique de ses 1m20 avec ce côté glaçant, comment on réagit quand on est comme Hélène? On se dit oh mon Dieu.
Oh mon Dieu, c'est étrange. C'est un peu flippant parce qu'elle a une intelligence rare, on peut le dire, une intelligence de plateau, de jeu, alors qu'elle a aucune expérience. Et ça relève d'autre chose, c'est autre chose que de l'intuition. Hein. Il y a un truc évidemment qui est très intuitif, mais qui relève de l'intelligence pour moi. Pour moi, on peut pas être, je crois, un bon comédien si on n'a pas une certaine intelligence émotionnelle. Et chez une enfant de cet âge, c'est très singulier, très particulier. Et ça a été très facile de tourner avec elle. J'avais l'impression de tourner avec quelqu'un qui avait déjà tourné 30 films, quoi. Elle a tout capté. Même à un moment donné, elle disait « Lola, attends, déplace-toi là, tu me fais une ombre sur le visage. Est-ce que tu peux te mettre comme ça, un peu en biais ?» Elle captait tout, la technique, les machins, les trucs. On lui demandait de changer de ton. Hop, elle changeait de ton. Je veux dire, même nous qui sommes des comédiens de longue date maintenant, voilà, mais elle capte tout, quoi. Elle a cette intelligence en elle, quoi. Ouais, c'est bluffant.
Comment on pourrait la définir, la maman que tu joues ?
Une femme avant tout, c'est ce que j'aime à dire. Elle se rend compte elle-même que ça n'est pas qu'une maman, ça n'est pas qu'une épouse. Et enfin, la série traite aussi de ce personnage en tant que femme qui est quand même un peu sous la coupe de son mari, qui veut faire plaisir tout le temps à tout le monde et en fait qui se rend compte qu'elle a besoin de liberté. Et il y a des choses qui vont arriver. En fait, ce tournage, enfin cette série démarre bien avant, je trouve, cet homicide, déjà par le fait que son mari l'arrache, le déménagement l'arrache à sa vie bien rodée et tout ça, où elle se plaisait bien, où elle avait plein d'amis. Donc elle se sacrifie pour son mari, pour suivre dans un nouveau boulot. Donc en fait, ça démarre. Moi, je pense que le mal-être de cette femme, avant d'être mère, démarre aussi déjà de là. Voilà, puis après, il y a tout ce qui arrive avec avec sa fille.
Elle a désabusé totalement.
Exactement, et c'est ce truc-là, de se dire, est-ce que mon enfant est capable de...
C'était sympa de tourner dans la forêt ?
Alors oui, vu que j'ai pas tourné de nuit dans la forêt, moi ça me...
Toi, ça t'allait ?
Oui, ça m'allait, vu que j'avais pas peur comme ça.
T'aurais eu peur sinon la nuit ?
Oui, je pense que j'aurais très 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 peur.
Bon, quel est ton meilleur souvenir de tournage ? Qu'est-ce que tu garderas ? Est-ce que t'as envie de continuer à jouer ?
Alors, mon meilleur souvenir de tournage, c'était un moment où on était tous ensemble. Et c'était vraiment très sympa, parce qu'il y avait vraiment tout le monde. Tout le monde était tellement gentil et tout, donc j'ai vraiment adoré. Et puis, je veux continuer parce que, eh bien, pour moi, tous mes copains, ils voudraient tellement faire ça que je me dis que c'était une chance, en fait, de pouvoir faire ça. Alors je voudrais vraiment continuer.
C'est génial, c'est vrai. Non, c'est fou, hein, Lola. Non, tu trouves pas ? J'y pose deux questions à la fois pour voir, et elle oublie pas la deuxième, elle continue à répondre.
Tu sais quoi ? C'est exact. Je pensais à ça. Ouais. Je dis quand même, hyper forte, quoi. Même moi, je suis pas capable de le faire. Bah voilà, c'est ce que je te disais.
Alors,
c'est
pas... Non, mais il y a une directive, mon vieux, dans ta tête, Elodie. Moi, franchement, tu me flingues, là. C'est un truc de fou. Elle est absolument incroyable. T'as un souvenir particulier, toi, Lola, à nous raconter, justement, sur le tournage?
Il y a un souvenir qui, pour moi, surtout dans le jeu, dans une scène qui a été très marquante, c'est quand j'entre dans la maison et je sais plus où est ma fille. Et après, je lui parle à travers une porte. Elle est partie se réfugier quelque part dans la maison. Ce moment où je la cherche, où je sens pour la première fois qu'elle peut être menaçante pour moi, c'est presque un truc inconscient, mais c'est un moment dans le tournage qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, parce que c'est la première fois que cette femme et cette mère dans sa propre maison se sent peut-être en danger en compagnie de son enfant.
C'est assez dingue. En tout cas, moi, je vous conseille de découvrir cette mini-série. Ça s'appelle Je sais pas, tiré du roman de Barbara Abel. Vous allez pouvoir découvrir, évidemment, les deux premiers épisodes cette semaine sur France 2, mais l'intégralité déjà sur France.tv. Et vous allez, en tout cas, très certainement, quand vous allez avoir vu les deux premiers épisodes, avoir envie de dévorer la suite tout de suite. Donc, vous avez cette solution. Profitez-en, en tout cas. On termine par les projets. Lola, ça n'arrête pas. Astrid et Raphaël qui continue. Mais il y a des mois où tu tournes pas, ou là, c'est fini, ça?
Je tourne à peu près 11 mois par an, mais comme on dit, faut pas se plaindre. Mais ouais, j'enchaîne bien. Je souhaite juste de pas tomber dans la schizophrénie. Voilà, peut-être.
En regardant Elodie, qui a dit ça.
Et ça me rappelle son regard. Le regard, tu le reconnais là, le truc?
Le regard, Elodie, t'as vu? Ouais, mi-ange, mi-démon. T'as envie de continuer à tourner, toi, alors, du coup? Est-ce que t'as des projets déjà? Ou alors t'attends la diffusion pour voir que des gens ils te repèrent, ou que des casteurs enfants te repèrent pour te proposer d'autres choses?
Alors en fait c'est top secret, mais j'ai encore deux autres films
sur le feu.
Oui.
On a hâte de voir ça, puis on espère te revoir en tout cas très très vite. Vous allez vous en souvenir, rappelez-vous bien de son nom, Elodie Bâtard-Gauthier. Vous allez découvrir en tout cas cette pépite, ça sera dans Je sais pas, la nouvelle mini-série événement. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci à Alison Paradis également qui était juste au début avec nous. On vous embrasse très fort les filles, merci beaucoup.
Merci.
Merci Alain.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Flashback, qui fait son grand retour jeudi pour une deuxième saison inédite. Et je peux vous dire qu'Elsa est plus en forme que jamais. Constance Gay est notre invitée pour notre plus grand plaisir. Bonjour Constance.
Bonjour.
Merci d'être avec nous après avoir sauvé son père dans la saison 1. C'est avec sa mère que ça va se compliquer ce coup-ci. Dans cette saison 2 inédite, il a fallu trouver effectivement de quoi revenir sur une intrigue forte. Et ce coup-là, c'est sa maman qu'elle va devoir sauver dans cette deuxième saison.
Elle doit sauver sa mère et son frère.
Et là, ça va s'avérer compliqué, évidemment.
Ah bah évidemment, comme la saison 1, sauver son père, c'est compliqué. Donc elle va devoir retourner dans le passé pour essayer de changer le cours des choses et de sauver sa petite famille.
Heureuse d'avoir une saison 2 sur cette série. Moi, qu'est-ce qu'elle m'a embarqué, parce que c'est vrai que dans les années 90, ça, bah, ça rappelle plein de souvenirs à notre génération, à nous, hein, les cinquantenaires bientôt, mais en tout cas, c'est vrai que cette série, elle a une esthétique particulière et elle nous embarque dans le temps comme ça. C'est peut-être un, on va dire, quelque chose qu'on a tous un peu en nous, le rêve de voyager dans le temps pour changer des fois le présent.
Oui, tout à fait. Bah, on rêve toujours du et si, et si, et si. On rêve de changer le cours des choses parce que le présent nous est insupportable ou un petit peu dur. Moi, je me dis qu'il faut pas changer le cours des choses, parce que si tu changes le cours des choses, tu changes vraiment tout, et bon.
Et on voit les effets cascades dans la série, d'ailleurs.
Mais c'est ça. La série le montre bien. C'est les effets cascades. Est-ce que ça va pas être pire en essayant de changer le passé? Voilà, le retour dans les années 90, bah, il est évidemment trop chouette à jouer, et en tant qu'actrice, je me régale. J'ai l'impression d'avoir des Playmobil toute la journée, quoi.
Non, mais c'est vrai que cette série, moi, je trouve, elle a une esthétique assez magnifique, et malgré tout, entre 2024 et 97, il y a un vrai travail de fait. Ça aide quand on voit les décors se transformer comme ça. Est-ce que ça aide à se plonger dans 30 ans en arrière?
Mais en fait, moi, je n'ai pas besoin de me plonger 30 ans en arrière parce que je viens avec mes yeux de 2026. Donc souvent, on me dit comment t'as travaillé l'époque, mais je l'ai surtout pas du tout travaillé.
Il fallait pas.
Bah, il fallait surtout pas. J'arrive avec mes yeux de 2026.
Par contre, 2024, elle va emmener des objets avec elle, hein, Elsa, puisqu'elle va retourner en 97 pour tenter de sauver sa mère et son frère. Et là, elle va retrouver Coco, évidemment. Et cette scène est tellement drôle quand Coco découvre le téléphone avec les photos dedans. Mais c'est tellement drôle.
Oui, elle revient avec... C'était un vrai choix de scénaristique. C'était, est-ce qu'on emmène un portable ou pas? Pour des besoins scénaristiques, il fallait qu'on ait un portable, mais on aurait pu très bien ne pas le mettre. Mais on s'est dit, ça peut quand même créer pas mal de trucs rigolos. Voilà, c'est mon meilleur pote d'enquête pour moi, mais c'est mon meilleur pote en tant qu'actrice, parce que je sais que je vais avoir des scènes qui vont être vraiment drôles. Et la séquence avec Coco, c'est vrai qu'elle est très très bien. La tronche de Coco, quoi.
Et en retournant en 97, elle va retrouver son père qui, lui, évidemment, ne sait toujours rien. Il va pas comprendre comment ça se fait qu'elle est de retour. Alors, Michael Youn, il est génial quand il la voit au bureau assise et qui dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Il comprend pas.
Bah, lui, il pense que depuis 2 ans, je suis morte. Donc, il a fait son deuil. Il est passé à autre chose. Et là, il ouvre la porte de son bureau et elle est là. Et on se rend compte, et ça vraiment, c'est quelque chose qui me tenait très à cœur, c'est de voir que Jocelyn a été vraiment très peiné par la disparition d'Elsa. Parce que oui, on est chien et chat dans la première saison, et il peut pas me blairer, tout ça, je l'énerve, mais je pense qu'il aime beaucoup cette jeune femme qu'il déplace et qu'il surprend. Et donc il m'en veut, en fait, quand je reviens. Parce qu'il m'en veut pas d'être vivante, il m'en veut de pas lui avoir dit que j'étais vivante, quoi.
Il va gratter encore, j'en suis sûr, dans cette saison 2, où Elsa va avoir affaire à un gang de masques de Jacques Chirac.
Tout à fait.
Alors là, j'ai trouvé ça assez dingue, parce qu'on voit une scène avec Jean-Pierre Pernaut, par exemple, dans une télé, qui parle effectivement de ce gang, qui existait du coup.
Non, Jean-Pierre Pernaut, c'est de l'IA. C'est semblant que ça existe, enfin, vraiment.
C'est assez extraordinaire, c'est super bien fait. Même moi, j'y ai cru.
Hyper bien fait. Moi, je l'ai vu vraiment quand je l'ai tourné. Le Jean-Pierre Pernaut qui parle du clan des Jacos. J'étais là. Mais comment ils ont trouvé ces images? C'est quand même incroyable qu'il parle du clan des Jacos aux bonnes dates. Non, Constance, c'est de l'IA. Eh ben oui, j'avais oublié que ça existait, cette chose. Ouais, c'est drôle, quoi.
Je me suis fait avoir, hein, je t'avoue que là, franchement, direct. Hein. Constance, est-ce que la fin de la saison 2 est ouverte? Parce qu'autant la fin de la saison 1, on pouvait imaginer qu'il allait y avoir une saison 2, enfin en tout cas on espérait. Et c'est vrai que dans ce genre de série, finalement, on peut toujours rebondir.
Ah, mais je vais vous dire, je vais rien vous spoiler, mais elle est très ouverte, la fin de la saison 2. Ouais. Et là, je crois qu'on a encore plus envie de voir la saison 3. La saison 2 après la saison 1, non, là c'est vraiment très ouvert.
Prête à retourner dans le temps, alors.
Je vais vous répondre une réponse d'une façon très étrange, et il faudra voir la série pour comprendre pourquoi je vous réponds comme ça.
Ok. Mais écoute, on va faire ça. En tout cas, on va se retrouver très bientôt. Parce que tu es à l'affiche aussi d'une très belle série qui s'appelle L'été 36. Mmh. Et qui sera diffusée un peu plus tard sur TF1. Où là, tu joues le rôle de Léonie, mais tu viendras nous en parler bien évidemment. Ça fait parler de tes nombreux projets. Puis aussi Face à Face, qui continue sur France 3.
Face à Face continue, mais avec un unitaire. On va clore cette jolie série avec un unitaire. Mais ça, on l'a pas encore tourné.
Bon, ça c'est une belle façon aussi de terminer en beauté.
Tout à fait.
Merci Constance.
Merci à vous.
Flashback est de retour jeudi à 21h10 sur TF1. On ne le rate pas, bien évidemment. Et on te souhaite plein de belles choses, en tout cas pour la suite. Et à très vite pour l'été 36.
À très vite.
Elsa, ça sert à rien de ressasser le passé.
La seule chose que je sais, c'est que si j'avais été avec ta mère ce soir-là, elle serait avec nous aujourd'hui pour fêter ton anniversaire.
Coco, il faut que tu m'aides.
Ça va ?
On est quel jour ?
Elsa Beyoncé, de la police canadienne.
Oh, la surprise !
T'as pas chargé, c'est fou, hein ?
Bah merde.
Votre victime, c'est sûr, c'est un meurtre.
Ça, c'est peut-être la science, mais ça, c'est encore plus fortiche. The Eye of the Tigers.
Ça m'avait manqué, ça, tiens.
Faut que je colle aux bases de mon père. Il y a forcément un lien entre mon père et l'assassinat de ma mère.
Tu vas voir qui c'est, Rocky.
Allez, muscle !
Et voilà le travail.
Notre coup de cœur télé est consacré à Claude Maquet, Errance d'un poète révolté, qui sera diffusé cette semaine sur France Télévisions. Un film de réalisateur Mathieu Verdeil qui est avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Et Lamine Diagne qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lamine, qui est le compositeur. Et vous allez voir que le film regorge évidemment de musique aussi. Bonjour Lamine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Claude Maquet, un poète que moi personnellement je connaissais pas du tout, méconnu. Et on va découvrir son histoire à travers ce film. Une histoire qui démarre en 1907 en Jamaïque, dans le film. Le tout narré, la voix de Claude Maquet est incarnée par Gaël Faye, qui est absolument incroyable. Et l'histoire narrée par notre amie Manon Azem, super comédienne. Franchement, tout est fait pour une découverte au top cette semaine, en tout cas, qui nous attend, Mathieu.
Bien sûr, vous ne le connaissiez pas et la plupart des téléspectateurs ne vont pas le connaître. C'est un auteur qui a complètement disparu des radars de l'histoire et que nous, on essaye de faire redécouvrir avec Lamine, qui est donc un des compositeurs du film, sachant qu'il y a aussi Gérard Cohen et plusieurs musiciens. Et nous, en parallèle de ce film, on a un spectacle musical qui tourne. Et donc voilà, c'est un projet. Il y a ce film, mais il y a aussi la musique qui nous aide à découvrir Maquet. Et pendant ce centenaire qu'on a mis en place, le centenaire de son séjour en France entre 1923 et 1928.
Mathieu, comment est venue l'idée déjà de ce film et comment toi tu as découvert Claude Maquet ?
Donc j'ai découvert l'œuvre de Claude Maquet il y a 20 ans grâce au groupe de musique Massilia Sound System. Je suis moi-même marseillais et Claude Maquet a habité à Marseille en 1925 pendant plusieurs années et son œuvre est très musicale. C'est pour ça que j'ai découvert à travers des musiciens. Son œuvre est aussi très intéressante d'un point de vue documentaire parce qu'elle parle à la fois de l'arrivée du jazz en Europe, à la fois de la ville de Marseille et du quartier réservé de Marseille avant qu'il soit détruit en 1943 par les Allemands. Donc il y a à la fois une richesse documentaire, une véritable joie de vivre et festive dans le livre, et à la fois une vision politique du panafricanisme en précurseur de la négritude. En fait, ce livre banjo a beaucoup inspiré Aimé Césaire, notamment pour penser la négritude.
Alors moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire en voyant le film, Mathieu, c'est qu'on s'aperçoit que Claude Maquet a été la clé de voûte de pas mal de choses, de l'histoire en tout cas, de la négritude aujourd'hui et de la lutte de la modernité noire. C'est vrai qu'il a été une errance, c'est bien dit, parce que fallait le suivre. À l'époque, c'était incroyable, il n'y avait pas les moyens de transport modernes qu'il y a aujourd'hui. Il a été en France, il a fait toutes les îles quasiment des Caraïbes. C'est une épopée absolument incroyable à raconter.
Oui, sa vie est extraordinaire et c'est pour ça qu'elle m'a attiré. On la découvre dans son autobiographie, Un sacré bout de chemin, qui est publié à l'heure actuelle aux éditions Hélotropisme. Il faut noter que on retrouve la plupart de ses livres maintenant édités en français dans toutes les librairies. On sort encore deux livres cette année, le recueil de poésie et la nouvelle traduction de Banjo. Et donc oui, son périple est incroyable. Petit paysan jamaïcain, il a vadrouillé dans toute l'Amérique ségrégée, ce qui a renforcé sa poésie de révolte. Et puis après, il a voyagé dans toute l'Europe, jusqu'en Russie, où il parlait avec Trotsky, en tant que lui-même poète militant et révolutionnaire. Mais il a posé pour les peintres à Paris. Il a milité en tant que journaliste noir en Angleterre. Il a habité à Marseille avec les vagabonds. Il est docker du port, mais tout en fréquentant des gens comme Charlie Chaplin, Fitzgerald, qui adoraient son œuvre et qui l'ont aidé à, voilà, à pouvoir vivre dans toutes ses pérégrinations.
Il y a de multiples combats, en tout cas, qui ont été menés par Claude Maquet tout au long de sa vie. Et vous allez voir que le documentaire, en tout cas, est très fouillé, très documenté. Et c'est ça qui est intéressant, la mine. On va parler de la musique, parce que c'est vrai que la musique est une part entière de la vie de Claude Maquet. Comment s'inspirer? Comment arriver à composer cette musique? Comment t'as fait? Comment t'as construit tout ça?
Bah, c'est une histoire qui a commencé pour le premier film de Mathieu. Qui s'appelait Claude Maquet de Harlem à Marseille, et pour lequel, en pleine période de Covid, il avait réuni tous les musiciens jazz de Marseille dans un lieu où il amenait à boire et à manger, et on a fait un énorme bœuf pendant lequel je déclamais des extraits de ses romans et des poésies de Claude Maquet. Donc ça a été une première rencontre très forte entre la musique jazz et les mots de Claude Maquet, et c'est devenu finalement un élément essentiel de ce premier film, qui était l'ébauche du film qui va bientôt être diffusé. Suite à ça, on a fait avec Mathieu un spectacle musical avec un quintet de jazz, avec des images d'archives qui sont projetées sur des écrans suspendus, et où on fait résonner le Marseille de Claude Maquet avec notre Marseille aujourd'hui, les préoccupations de son époque avec nos combats d'aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que, en fait, ça fait un moment, en fait, qu'on travaille déjà autour de la figure de Claude Maquet. Et pour ce dernier film, j'ai tout simplement réuni des musiciens avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. On s'est enfermés, j'ai donné des indications, on a plongé dans l'univers de Claude Maquet, l'univers de banjo, et on a fait des propositions aussi. Ce sont les indications de Mathieu, bien sûr.
Il y a beaucoup d'images aussi d'archives qu'on découvre, hein, des très très anciennes images, et qui du coup sont sublimées par la musique de la mine, Mathieu.
Voilà, alors la musique de Lamine et de Gérard Cohen, hein, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec deux compositeurs qui ont apporté chacun leur touche pour former un voyage musical, en fait un carnet de voyage à l'image de la vie de Claude Maquet, que ça soit la Russie ou la Bretagne, aussi bien que le Maroc, Marseille, donc des sonorités très différentes, ou même la Jamaïque où il est né, il a grandi. Donc c'était ce télescopage de toutes ces musiques qui sont venues rencontrer ces images d'archives de tous ces pays, et surtout soutenues par de la peinture, beaucoup d'œuvres d'art qui ont été des peintures qui ont été créées à l'époque où Maquet traversait ces pays, et où Maquet était ami des peintres. Il a posé pour les peintres à Paris. Il a rencontré les artistes d'avant-garde en Russie, par exemple. Donc voilà, c'est un télescopage de nombreuses sources qui viennent du monde entier, que je rassemble depuis une vingtaine d'années, parce que ce sujet me passionne, et que du coup, voilà, j'ai engrangé des images et des images.
Le premier film, on peut le voir où? Que Lamine nous parlait justement de Harlem à Marseille. Est-ce que on peut le voir déjà quelque part, une plateforme, une chaîne?
Alors c'est un film qui tourne, qui est présenté dans des festivals de jazz par exemple, dans des festivals littéraires ou dans des projections spéciales dans des universités, etc. Donc si tout ce projet vous intéresse, il y a un site à venir découvrir qui s'appelle maquet100ans.com. 100 comme le chiffre, 100, 100
ans. Maquet, c'est MCKAY.
Voilà, maquet100ans.com, MCKAY100ANS, 100ans.com. Et sur ce site, vous pouvez découvrir tout le projet, les spectacles musicaux, les lectures, les nouveaux livres, les films. Et vous pouvez découvrir des extraits du premier film et m'envoyer un message, et je vous donnerai le lien pour accéder au premier film.
Oh, comme il est gentil, Mathieu. Bon, en tout cas, il y aura aussi un spectacle qui va tourner à Avignon cet été, inspiré effectivement David de Claude Maquet aussi.
Voilà, alors on vous invite aussi à venir au Festival d'Avignon du 5 au 25 juillet, dans le HOF, le spectacle de Lamine qui s'appelle « Qu'est l'être un poète disparu ?» qui va jouer pendant 3 semaines, et qui est le reflet donc de la vie de Claude Maquet, mais aussi de la vie de Lamine, et donc ce lien à 100 ans d'intervalle. Et également une lecture exceptionnelle, une lecture musicale avec Alain Damasio, Mike Ladd, le rappeur américain, et Lamine, dans les jardins du Palais des Papes, le 15 juillet.
Beau programme. Lamine, ça va aller? L'été va être au studio?
Oui, l'été va être bien rempli et on se réjouit. En fait, on va vraiment ponctuer le festival Off d'Avignon de différents événements. On va ouvrir un petit peu le festival à la Maison Jean Villard avec une conférence de presse autour des années Maquet. Ensuite, on sera au Théâtre des Halles, qui est un super théâtre, vraiment avec une grande cour ombragée, avec des vraies conditions pour pouvoir travailler tous les soirs à 9h30, sauf les mercredis. Et ensuite, cet événement dont parlait Mathieu, qui s'appelle Le Souffle d'Avignon, qui aura lieu dans les jardins du Palais des Papes. Et c'est vrai qu'on a fait des émules. Alain Damasio ne connaissait pas Claude McKay, il l'a découvert grâce à nous. Il est tombé vraiment littéralement amoureux de cet auteur et il lui a écrit un long slam, une longue déclaration d'amour qu'on a mis en musique. Mike Ladd, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un rappeur américain très engagé qui connaît Claude McKay depuis très longtemps et qui a un flow absolument incroyable.
Et donc, pour aller plus loin, on peut aussi écouter l'album qu'on a fait et qui est tiré du spectacle, mais que vous pourrez entendre sur les meilleures plateformes. Voilà, pour continuer à écouter, à découvrir les mots de McKay en musique.
Claude McKay, Errance d'un poète révolté. Vous allez pouvoir découvrir ce documentaire cette semaine sur France Télévisions. Pour terminer, je me demandais en une phrase, pour celui qui n'avait jamais entendu parler de Claude McKay, qu'est-ce que vous lui diriez maintenant pour venir voir votre film cette semaine sur France Télévisions? Lamine.
De venir écouter le cœur battant d'un poète engagé, révolté, mais amoureux de l'homme.
Mathieu.
Ben, une grande liberté d'un petit paysan jamaïcain qui est devenu un extraordinaire écrivain vagabond, voyageur, et qui a traversé toutes les avant-gardes politiques et artistiques de ce début de siècle.
Et pour terminer, on va vous faire écouter un petit morceau justement de la bande originale du film par Lamine, et puis la bande-annonce qui suivra juste après. Claude McKay, Errance d'un poète révolté, c'est cette semaine sur France Télévisions. Merci Mathieu, merci Lamine, à bientôt.
Merci à vous.
Merci.
Si nous devons mourir, que ce ne soit pas comme des porcs traqués et parqués dans un enclos infâme, pendant qu'autour de nous, les chiens enragés aboient et se moquent de notre triste sort. Si nous devons mourir, nous mourrons noblement, afin que notre précieux sang ne soit pas versé en vain. Alors, même les monstres que nous défions seront contraints de nous honorer dans la mort. Oh mes frères, nous devons affronter l'ennemi commun. Même inférieur en nombre, montrons notre bravoure. Pour leurs 1000 coups reçus, rendons un coup mortel. Qu'importe si devant nous s'étend la tombe ouverte, en homme, nous ferons face à la meute meurtrière. Le dos au mur, mourant, mais rendant coup pour coup.
Allez, l'intrigue vient à peine de se terminer. On peut dire en tout cas qu'elle nous a tenus en haleine pendant de nombreuses semaines dans Demain nous appartient. On va parler avec lui aussi du grand retour de Caméra Café qu'il réalise. Raphaël Langlais, notre invité. Bonjour Raphaël.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. Brice Mussard, quel rôle? Est-ce que c'est un rôle qu'on attend ça dans une carrière de comédien?
Honnêtement, oui, et c'est la qualité d'écriture du rôle quand on m'a donné à lire le scénario de DNA où je me suis dit « Ah, tiens, il y a un truc à jouer avec ce mec ». Et puis le fait que ce soit un peu à la Columbo parce qu'on sait qu'il a tué très vite, donc il y a une ironie dramatique terrible pour le public parce qu'il me voit mentir, et donc il y avait pour moi un jeu un peu... quasi pervers de jouer avec le public parce que je savais que des gens de l'autre côté de l'écran allaient me détester, et clairement c'est le cas vu le nombre de messages de haine que je reçois sur les réseaux sociaux. Mais moi je prenais comme un compliment, je me dis bon bah c'est que j'ai bien fait mon boulot. Et j'ai eu la chance de travailler avec un super réal sur DNA, c'était Vincent Giovanni. Il y a eu d'autres réalisateurs, mais c'est lui qui a quand même traité la majeure partie de cette arche très complexe et qui avait une vraie envie aussi. On sentait dans sa mise en scène qu'il avait envie de faire quelque chose de très stylisé, de très marqué, le décor de la maison. C'était très stimulant, et j'avoue que je sais pas que j'avais des a priori sur la quotidienne, mais je sais qu'il faut sortir 26 minutes par jour, qu'on n'a pas toujours le temps de chiader, et bah lui, il arrive à sortir 26 minutes par jour, ultra chiadé, donc c'est un peu, même pour moi réalisateur, une leçon.
C'est chouette quand c'est comme ça, parce que, alors c'est vrai que ton personnage était pris vraiment entre un Martin Constant qui était à tes trousses et qui de toute façon lui n'avait aucun doute sur la culpabilité de Brice Mussard, et en même temps celui de Raphaël, une collègue qui elle au début prenait sa défense quand elle s'est aperçue à un moment donné, quand même, preuve à l'appui, que c'était un espèce de salopard. Et c'est vrai que Martin Constant, il n'a rien lâché, lui a collé aux trousses jusqu'à ses aveux qu'on a vus ce fameux vendredi, qui restera dans les annales de DNA.
Mais en fait, le rôle, je dis pas que c'était pas compliqué au sens où il fallait, comme il ment, et comme il c'est un pervers narcissique et qu'il n'en a pas conscience, comme la plupart des pervers narcissiques, c'est le comble de cette pathologie, les gens n'en ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont et ce qu'ils font est mal. C'est-à-dire que c'est une vraie nature. Du coup, je l'ai abordé avec sincérité dans tous ses mensonges. Et c'est ce qui rendait la chose encore plus détestable. Et la séquence des aveux, elle est d'autant plus troublante. On a ce qu'il dit et en même temps, montage alterné, on a ce qu'il fait. Et les deux ne vont pas du tout ensemble. Et ça résume parfaitement le personnage. C'est-à-dire que pour le spectateur, quand on voit cette séquence de montage alterné de la face, il a l'air d'être dans le chagrin, mais en fait, il est dans le chagrin d'avoir été arrêté. Il n'est pas dans le chagrin de ce qu'il a fait.
Comment on sort d'un tournage comme ça? Comment on sort de journée comme ça? Est-ce qu'il y a une certaine forme de culpabilité chez le comédien ou au contraire, on se dit, on dénonce quelque chose qui peut servir à des gens aujourd'hui? Il y a aussi un véritable message là-dedans.
Alors c'est marrant, ces histoires d'acteurs qui sortent et qui disent, je suis resté dans le personnage pendant 3 semaines, j'arrive pas à le quitter. J'ai toujours trouvé que c'était bullshit.
Il y en a qui disent peut-être qu'ils se sentent un peu sales le soir, mais par moment, mais il y a aussi ce message qui est important.
Le message est très important, mais moi je n'ai aucun jugement moral sur mes personnages. Déjà, si on commence à avoir un jugement moral sur son personnage, on est très mal barré pour le créer. Il faut être absolument neutre, on est là au service d'une histoire, on est là au service d'un réalisateur. Et notre petit jugement en tant que personne sur ce que fait est totalement hors sujet et parasite même. Il faut être dans une sorte de sincérité absolue en partant du personnage et pas en partant de soi. Donc se sentir sale le soir, non, c'est pas moi, c'est de la fiction. C'est marrant, et le nombre de gens qui m'ont arrêté dans la rue qui disaient « Ah bah je vous aime plus dans Candice Renoir », mais je comprends même pas la phrase en fait. C'est un personnage. Ça n'existe.
J'aime plus votre personnage dans Candice Renoir, il pourrait dire.
Si je vous aime pas dans, mais ce n'est pas moi, ni dans Candice Renoir, ni dans. Mais c'est marrant, il y a des gens qui ne font pas cette distinction entre la fiction. C'est une narration, c'est une fiction, c'est une construction. Ça n'existe pas.
C'est encore pire dans la quotidienne, ça.
J'ai l'impression qu'ils le prennent un peu premier degré. J'ai peut-être pas choisi le rôle le plus simple, en fait. Je vais recevoir des menaces très très vite.
Bon, en tout cas, ça on pouvait pas l'imaginer. Et ça, c'est vraiment la surprise du chef. C'est le retour de Leïla qui est vraiment, en tout cas, mené à tout ça. Et Samir Alachab qui fait son grand retour dans la série. Et ça, pour notre plus grand plaisir, c'est sûr.
Samira qu'on retrouve dans Mon Caméra Café. C'est ça qui est dingue.
Alors, ben justement, on va en parler de ça. En attendant, juste pour clore là-dessus, Brice Mussard est en prison. Est-ce que toi, si on demande de le faire sortir, ce personnage, d'ici quelques années, quelques mois, pour le procès par exemple, est-ce que tu y retournes?
Et je crois que c'est en préparation.
Waouh. Brice Mussard, is back bientôt.
Je crois que ça a été évoqué par la chaîne, parce que ça s'est très bien passé à tous les niveaux. On s'est bien entendu, la prod a été super. Honnêtement, j'ai été surpris par la qualité d'écriture de mon personnage. Je n'ai pas tout lu non plus pour les autres, j'ai pas le temps. Mais pour Brice Mussard, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai travail. Alors après, comment on peut traiter le procès, vu qu'il y a eu des aveux et tout, mais bon, je fais confiance aux scénaristes pour trouver quelque chose d'original. Mais en tout cas, moi, j'y retournerai avec plaisir, oui.
Alors Samira, tu disais que tu te retrouves dans Caméra Café parce que c'est aussi ton autre casquette, celui de réalisateur, que j'ai l'impression, en tout cas que tu apprécies de plus en plus. Ouais. Et ça, j'ai l'impression vraiment que tu t'amuses beaucoup dans ce rôle-là aussi.
Alors le résultat, on voit beaucoup d'amusement, on voit pas aussi les moments les plus douloureux de la création, parce qu'il n'y a pas que des moments d'amusement sur un tournage, croyez-moi, il y a des moments compliqués. Et s'il n'y a pas de moments compliqués, c'est que le film est mal barré. Il faut qu'il y ait des moments compliqués. Parce que c'est là que naît la création, et c'est là que c'est parce que quelque chose fonctionne pas qu'il faut trouver une autre idée et tout. Mais tous les tournages sont épuisants. Mais c'est vrai qu'un jour, j'aimerais bien faire un film où ça se passe plutôt bien, calmement. Un truc un peu plus léger, mais ça n'est jamais le cas. Mais celui-là non plus, il n'a pas été si léger que ça. Même si c'était Bruno et Yvan, mais il y avait un rythme, il y avait une exigence, il y avait beaucoup de décors.
La comédie, on dit que c'est ce qui est le plus dur à faire, hein.
Oui, alors, avec deux avions de chasse comme ça, ça va, mais c'est, surtout que j'avais des ambitions aussi de pas faire quelque chose de trop. Des séquences d'ouverture où il y a la caravane qui casse et ça devait casser en direct, un peu comme la scène de Funès avec sa deux chevaux qui, donc c'est des idées comme ça que j'ai, en prépa où tout d'un coup, mon premier s'arrache les cheveux et le chef d'écho se dit, oh mon Dieu, comment on va faire ça? Et puis on arrive à le faire, c'est la séquence d'ouverture et elle marche bien. Et on l'a testé en public et elle fonctionne très bien, donc j'ai été content.
Tu avais regardé Caméra Café? Est-ce que ça fait partie un peu de ta jeunesse, de ta culture télévisuelle? Est-ce que tu avais pu regarder ces scénettes? Est-ce que tu as grandi, vieilli avec ça?
Ah mais c'est plus que ça. Caméra Café, c'est mon premier emploi. J'ai commencé comme scénariste sur Caméra Café. Je regardais la série et un jour j'ai envoyé deux textes. Je travaillais encore dans un fast-food à l'époque. Père m'avait prêté un PC, j'avais une disquette, j'ai envoyé, je suis allé dans un webcafé, envoyé mes deux textes. Et deux heures plus tard, il y avait Bruno et Yvan qui m'appelaient pour m'embaucher.
C'est dingue ça.
Ouais. Et ma vie a changé à ce moment-là. C'est à partir du moment-là où je suis vraiment rentré dans les métiers de la fiction, que je les ai plus jamais quittés. Ensuite, il y a eu les Bleus, ensuite les trucs, mais Caméra Café, c'est mon premier emploi.
On aura l'occasion, bien sûr, de recevoir Bruno et Yvan lors de la diffusion, mais déjà, est-ce que plusieurs mois avant, tu peux nous en donner un petit peu les quelques lignes de départ de ce nouvel opus?
Alors ça s'appelle Caméra Café Opération Retraite, c'est le titre, ça y est, ça a été choisi. Ça commence sur un échec, l'échec du car wash qu'ils ont créé, et ils se demandent comment ils vont s'en sortir, surtout qu'ils n'ont pas tous leurs points retraite, donc ils sont obligés de retourner dans le monde du travail avec les codes de maintenant, et ils vont se heurter de mission en mission à des situations de plus en plus catastrophiques, et il y a littéralement une descente aux enfers tout le long du film, c'est-à-dire que ils finissent littéralement dans les égouts. Donc c'est vraiment un film à sketch, mais avec un petit dialogue grinçant derrière, et puis on a le plaisir de retrouver les personnages et le ton de la série originelle.
À la rentrée, probablement sur M6, on va suivre ça bien évidemment, mon cher Raphaël. On termine juste avec tes projets. Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver dans le printemps, dans l'été, que t'as tourné, qui vont être diffusées bientôt?
Eh ben, j'aimerais, mais non.
Et puis, y a de la réalisation en attendant, c'est bien aussi.
Non, je finis Caméra Café justement là, et puis après peut-être un retour de Brice Mussard, on va voir.
Merci beaucoup.
Merci.
Et à bientôt.
À bientôt.
Le coup de cœur, plateforme de la semaine.
Allez, Lucky Luke est de retour sur Disney+, et pour notre plus grand plaisir, eh bien, nous avons les auteurs qui sont avec nous, Mathieu Leblanc et Thomas Mansuit. Bonjour à tous les deux, les garçons. Et
bonjour.
Bonjour.
Ils deviennent des habitués. En décembre, ils étaient là pour Belphégor. Eh bien, ils sont là de retour avec nous pour nous parler de l'adaptation de cette bande dessinée culte. C'est vrai que s'attaquer à Lucky Luke, c'est un sacré challenge et un sacré monument quand même de la BD, hein.
Oui, mais ce qui compense ça, c'est que quand quelque chose t'a accompagné toute ton enfance, et en fait au final moi, même dans ma chambre d'adolescent, il y avait une frise de Lucky Luke, et je m'en suis rendu compte que quelques années après avoir démarré le projet, en retombant sur un vieux rouleau chez mes parents, et en fait il est là avec toi depuis le début. J'ai appris à dessiner sur du Lucky Luke, donc vraiment il y avait un gros dessin qui ornait à la porte de la cuisine de mes parents pendant des années, et pour le coup il y a quelque chose d'extrêmement familier, et c'est un peu comme quelqu'un de la famille, un parent qu'on a admiré enfant, et dont une fois adulte on a envie de se dire, mais en fait, est-ce qu'il n'a pas douté? Est-ce qu'il était si parfait? Est-ce que finalement, il n'a pas des défauts qu'on voudrait aller creuser? Ça devient tout naturellement un truc qu'on a envie de revisiter.
À votre avis, qu'est-ce qui a fait qu'un personnage comme ça traverse les époques, traverse les générations aujourd'hui, qu'un personnage comme Luke? Qu'est-ce qu'il avait de plus, Lucky Luke?
Ce qu'il avait de plus, Lucky Luke, c'est qu'il a la force des icônes. C'est comme un Clint Eastwood. C'est-à-dire que c'est un personnage. Alors, il a 80 ans. Joyeux anniversaire à lui, hein. 1946, le premier album. Lucky Luke, il est à la fois, il est iconique. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Il est parfait. Il est flegmatique. Il a un super pouvoir. Tout le monde va l'admirer. Et il ne fait que croiser des gens complètement fous ou défaillants qu'il va aider à devenir des héros ou à guérir de leur folie. Donc voilà, il a la beauté des icônes. Nous, le risque qu'on prend, comme disait Mathieu, c'est qu'on va le twister, le fragiliser et faire en sorte... Alors jusqu'ici, on l'admire beaucoup. Bah, est-ce qu'on va peut-être pouvoir être un peu attendri? Est-ce qu'on va pouvoir l'aimer, voir son petit cœur qui bat, quoi? Voilà.
Justement, Mathieu, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont, je vais dire, été interdites par les ayants droit, mais est-ce qu'on vous a laissé une liberté totale, ou est-ce qu'ils ont eu quand même un droit de regard sur l'adaptation?
Alors, quasi totale. Les trois choses qu'ils nous ont dites, c'est Lucky Luke ne fume pas, Lucky Luke ne tue pas, et Lucky Luke ne jure pas. Donc c'est un peu le code Hays, mais à partir de là, on est libre de tout. Et non, ce qui était assez intéressant dans le cas de Lucky Luke, c'est que c'est un personnage qui a été créé par Maurice, et où Goscinny est arrivé au bout de 10 albums. Donc il y a quelque chose où cette paternité un peu décalée et double, parce que nous, pour le coup, dans les adaptations qu'on a faites, c'est des Maurice et Goscinny. C'est comme au cinéma où il y a plusieurs sources de financement. Vous êtes plus fort d'avoir plusieurs parents qui doivent prendre la parole. Donc du coup, quelque part, on était beaucoup plus libre, et c'est une marque qui est plus libre, par exemple, qu'un Astérix qui a été repris. Quand il est repris de manière canonique. Lucky Luke, mine de rien, il y a eu des auteurs de BD comme Blutch, comme Bouzard, qui ont chacun donné leur version de Lucky Luke. C'est un peu comme Spirou. Donc il y a un côté où, mine de rien, ils ont cette habitude-là. ils ont cette ouverture là et ils nous ont vraiment laissé nous amuser, ils étaient demandeurs de tout ça.
Thomas, on doit faire des choix, j'imagine, sur un 8 x 35 minutes. Ben, on peut pas mettre tout le monde, on peut pas mettre tous les personnages qui ont fait justement tous les albums de la BD. Comment on articule ces choix-là ?
Ben, surtout, la première question, c'est qu'on se demande qui on n'a pas le droit de ne pas mettre. Et donc, évidemment, quand on fait Lucky Luke, faut qu'il y ait Dalton, c'est évident. Faut qu'il y ait Jolly Jumper, faut qu'il y ait Calamity Jane, faut qu'il y ait Billy the Kid. Après, ça, c'est les impératifs. À partir de là, on se demande aussi qui on peut accueillir, le nouveau public. En fait, il y a des gens qui ne connaissent pas Lucky Luke et qui vont recréer Lucky Luke. Donc, quels personnages vont le mieux servir notre histoire? Et on s'est dit, voilà, faisons beaucoup avec peu de personnages. Donc, vous allez les reconnaître. Il y a des personnages emblématiques. On a 8 épisodes, c'est à la fois beaucoup et pas assez, jamais assez. Donc voilà, on a dû faire des choix qui ont été guidés par la narration et par l'histoire qu'on voulait raconter, mais il y a les impératifs. Voilà, on se fera pas tirer dessus pour cette raison-là. En tout cas, on a oublié personne des personnages emblématiques de la BD.
En tout cas, Mathieu, il y a aussi quand même des petites nouvelles. Effectivement, on va découvrir des personnages dont celui joué par Billy Blin, par exemple, que vous avez peut-être vu au cinéma dans Cassandre. Là, un rôle beaucoup plus drôle. Évidemment, encore celui de Charlie incarné par Alice Taglioni.
Oui, alors il y a à la fois le côté dont je parlais tout à l'heure sur le dès qu'on a un héros classique comme ça de la BD franco-belge, mine de rien, ça a été créé il y a un certain temps, donc c'est un héros classique qu'on va remettre en question sur sa perfection, etc. Mais c'est aussi au final une époque où les femmes avaient pas grand-chose à jouer, hein, quand on pense que chez Tintin, ben la Castafiore c'est la seule femme dans lequel Lucky Luke, il y en a un tout petit peu plus, mais c'est vrai qu'il y a Sarah Bernhardt qui est un peu l'équivalent. En gros, les femmes qu'il y a chez Lucky Luke, c'est très souvent des filles de joie ou des chanteuses de saloon qui ressemblent à une espèce de Castafiore western. Donc il y a pas beaucoup de choix, et du coup il y avait une mission impérative au-delà de Calamity Jane, qui d'ailleurs tous ces enjeux à elle dans la BD tournent un peu autour du fait qu'elle n'est pas très féminine et qu'elle va essayer de se féminiser, etc., pour être acceptée dans la bonne société.
Et Camille Chamou, elle est extraordinaire.
Hein. Elle est exceptionnelle. Et pour le coup, tout de suite, on s'est dit, mais comment est-ce que on féminise ça? Et ça tombe bien parce que nous, nos grandes obsessions, c'est de parler des histoires de transmission. On l'a fait dans à peu près toutes les séries sur lesquelles on a travaillé. Et donc, la première idée que nous on a eue quand on a passé un casting d'auteur auprès de Fédération et un pour tous production, les producteurs, c'était voilà, la question, ça va être qui va être la recrue, qui va être la descendance de Lucky Luke, qui arrive à un moment dans sa vie où peut-être qu'il n'est plus le Lucky Luke flamboyant qui tire aussi vite que son ombre. Et donc, à partir de là, on a des personnages qui ont émergé, comme Louise, qui est donc big up à ma fille aînée qui porte le même prénom, et qui est clairement cette fille spirituelle de Luke qui débarque et qui va le remettre face à plein de contradictions et face à l'image qu'il a de lui-même et que nous aussi.
Elle va lui botter le derrière, en quelque sorte.
Tout à fait. Elle va lui botter derrière. Elle va lui montrer qu'il est peut-être un peu un vieux con sur certains aspects, qu'il est pas à la page.
Non, jurez pas, Mathieu.
Ah, c'est vrai. Les ayants droit vont me taper sur les doigts. Mais c'est pas moi qui, moi j'ai le droit de jurer. Lucky Luke n'a pas le droit de jurer. Donc, non, clairement, elle va le rouer dans les brancards. Elle va le mettre face à ses contradictions. Et en même temps, il y a un truc qui est aussi intéressant. C'est qu'elle va incarner peut-être le jeune Lucky Luke qu'il a été lui aussi à un moment donné, c'est-à-dire qu'on a toujours ce Lucky Luke flegmatique, etc. Le confronter à quelqu'un de jeune, c'est une façon de peut-être le renvoyer à une image de quelqu'un qu'il a oublié, et on peut du coup imaginer un Lucky Luke que personne n'a jamais connu, qui était peut-être un peu plus sale gosse, un peu plus têtu, un peu plus couillon que celui qu'on a eu l'habitude de lire dans la BD.
Les ayants droit vont vraiment te taper dessus, Mathieu. Thomas, combien de temps vous avez travaillé sur l'adaptation?
En fait, on est sur ce projet depuis 2021. C'est à l'époque du fameux casting d'auteur dont parlait Mathieu. Ensuite, il a fallu le temps de trouver des partenaires pour la vendre. Donc, c'est France Télévisions qui nous a lancé là-dessus. Et ensuite, très concrètement, nous avons lancé une room d'écriture avec Justine Kim Gauthier et Juliana Grignon qui nous ont rejoints à l'écriture, qui sont les co-scénaristes sur toute la série. Et là, on a passé un petit mois et demi à fabriquer ce qu'on appelle des arches, donc toute la structure de la série. Et ensuite, quand ça se déploie et qu'on part sur les dialogués, se passe encore, disons qu'on va dire un an, jusqu'à ce qu'on ait des textes prêts à tourner et que le tournage se lance. Donc c'est à la fois très court, très long. Nous, on a l'impression d'avoir porté un gros bébé et qu'on est très heureux de présenter au monde. Voilà.
Ah, mais ça y est, le bébé est en train d'accoucher. Je veux dire, un beau bébé, 8 fois 35 minutes sur Disney+, en fin d'année également sur France 2. Vous pourrez découvrir cette toute nouvelle adaptation. Alors maintenant que la saison 1 appartient au public, est-ce que vous avez déjà les idées pour une saison 2 éventuelle, tous les deux?
Oui, on a toujours des idées, on a des envies. Ce qui est formidable avec Lucky Luke, c'est qu'on peut imaginer tous les formats possibles. Il existe en BD, il existe en film, il existe en série. Donc nous, on a toujours des histoires à raconter. On y a pris goût parce que du western en France, ben voilà, c'est très très excitant. C'est un honneur en plus en tant qu'auteur de pouvoir manipuler ce genre-là. Maintenant, il faut que les gens se jettent sur la série à partir du 23 mars sur Disney+ pour montrer qu'il y a un intérêt et qu'on n'a pas fait du mauvais boulot.
Et ce qui est intéressant dans les pistes qu'on a déjà explorées ici dans cette série, parce qu'on s'interroge sur quelle est l'origine story de ce héros, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu l'homme qui tire plus vite que son ombre. Donc on remet en question ce qui était un acquis. On se dit, ok, il y a matière à aller explorer l'histoire et peut-être découvrir une partie de sa jeunesse. Et ben c'est que cette histoire-là, cette mythologie à laquelle nous on apporte notre propre brique, et ben on peut continuer à l'explorer parce qu'il y a ne serait-ce que la question de pourquoi une fois qu'il est devenu l'homme qui tire le plus vite que son ombre, il est devenu un justicier. Pourquoi il n'est pas devenu un bandit? Est-ce que Lucky Luke aurait pu être un bandit? Donc ça c'est des choses où, clairement des questions qui sont venues chez nous à partir du moment où l'épisode la saison 1 c'est close. Et après il y a le fait qu'on a tellement joué avec les codes aujourd'hui de lui mettre une famille dans les pattes, de le faire alliance avec Joe et avec Billy the Kid alors que ce sont ses ennemis à la base. Il y a quand même un truc qui va être très jouissif, c'est de s'imaginer une saison 2 où potentiellement ben on revient sur les fondamentaux et que ils ont un passif que nous on a posé qui est nouveau mais qu'on recrée des ennemis plus forts et limite un Joe Dalton qui serait aussi fort qu'un Joker dans Batman. Est-ce que ça, ce serait pas un truc qu'on a envie de voir?
Eh oui, allez, Alban Lenoir, Billy Blin, Alice Taglioni, Camille Chamou, Jérôme Niel, Victor Leblon et plein d'autres. Il y aura des guests de fou, Patrick Mille et bien d'autres encore. Et précipitez-vous en tout cas pour aller voir sur Disney+, effectivement, cette première saison de Lucky Luke. On va se quitter avec la bande-annonce et puis merci beaucoup les garçons. On termine par vos projets à tous les deux. Beth et Gore, bientôt sur M6.
Belphégor bientôt sur M6 en effet, après être sorti sur HBO. On a d'autres BD ou dessins animés de notre enfance qu'on rêverait d'adapter en série et on est en train d'écrire du cinéma et un grand film d'aventure qu'on espère voir aboutir.
Toujours tous les deux
et on porte aussi deux projets pour lesquels qui sont plus dans l'esprit on va dire du Francis Weber revisité un peu à la sauce Farelli où je passerai à la réalisation. Donc on est en train d'amorcer à la fois des nouveaux univers via le cinéma
et un autre palier et voilà, vous concernant.
Exactement, devenir des auteurs toujours un peu plus, c'est que le début.
Merci beaucoup, c'est qu'on sera à vos côtés en tout cas les garçons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes les co-auteurs tous les deux, hein, notamment, enfin deux des co-auteurs, hein, puisque vous êtes quatre, j'ai bien compris. C'est écrit à 8 mains. Lucky Luke donc sur Disney+, et puis on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Il paraît que t'es un justicier.
C'est ce que je fais. Tu sors d'où, toi?
Je cherche ma mère. Elle a été enlevée.
Tu vas la revoir, je te le promets.
Le travail en équipe, c'est pas trop ton truc, hein.
Tu connais rien à l'Ouest Sauvage.
Je suis tombée sur des bandits.
Quel bandit?
Mais
Billy the Kid, Joe Dalton.
Non, on a autre chose à faire là. Ma mère, elle a été enlevée parce qu'elle a découvert un complot. Elle est en danger de mort, c'est sûr.
Bon.
Qu'est-ce qu'on fait?
On les flingue.
Allez, ne bougez pas, notre spécial sauvage, c'est dans quelques instants dans Chute en écoute la télé. Camille Poncin et Lou Lamprousse nous rejoignent, à tout de suite.
Bouge pas, Chute en écoute la télé revient dans un instant, à tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute en écoute la télé.
Sortie de ma chambre, les mots me manquent, c'est pour ça que je chante. À tout l'amour que les gens m'ont donné, j'y pense souvent quand je veux abandonner. Mais quand il n'a pas prononcé mon nom, c'est déjà fini, je rentre à la maison. Les gens en parlent, certains m'attendent et d'autres m'appellent. Pourtant je suis seule à consoler ma peine. Écoutez-moi, oh. j'ai personne sur qui me reposer. Moi j'ai 20 ans et je dois déjà me trouver. Mes nuits se meurent si je me mets à penser. Elle est plus belle, il est plus fort, où est-ce que je vais aller? Et plus j'avance sur cette scène imposante, je sens que j'ai peur mais j'ai ce truc dans le ventre. Faut-il que je crie pour que le monde m'entende? Il faut que j'y croie, il faut que je donne tout sans attendre qu'on me le rende. Écoutez-moi, encore une fois, je veux pas que tout s'arrête, quand le rideau se ferme. Écoutez-moi, encore une fois, mais qu'est-ce qu'il me reste, quand le rideau se ferme. Parfois le silence fait trop de bruit, il claque comme le son de sous les projecteurs qui dansent au rythme de mes peurs. Écoutez-moi encore une fois, je veux pas que tout s'arrête quand le rideau se ferme. Écoutez-moi encore une fois, je veux pas que tout s'arrête. J'aime cette vie remplie de doutes. À vous qui écoutez ma chanson, je grandis depuis l'émission.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, c'est notre spécial Sauvage. Le film sort mercredi dans les salles. À cette occasion, eh bien, on a la chance d'avoir le réalisateur qui est avec nous, Camille Poncin. Bonjour Camille.
Bonjour.
Merci d'être là. Et on a Lou Lampros, l'une des héroïnes de ce film, l'héroïne, je dirais même. Bonjour Lou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, Sauvage raconte l'histoire d'Anja, une jeune fille qui vit un peu en marge de la société et qui va partir vivre dans les bois au grand dam de sa maman. Une histoire basée sur une histoire vraie de la femme des bois dans les Cévennes. Donc, Camille, je crois que tu es très proche.
Oui, tout à fait. C'est une histoire qui m'est intime puisque ça se passe dans une vallée où j'ai une partie de ma famille et où j'ai en partie grandi. Donc c'est une histoire qui est arrivée à des amis à moi, voilà. Et j'ai connu cette jeune femme quand elle était gamine et puis je l'ai vue dériver, je l'ai vue s'isoler et je l'ai vue tout à coup partir dans les bois comme nous l'avons tous vécu dans la vallée des Cévennes où ça s'est passé.
Comment s'approprie un personnage comme celui d'Anja? Lou, où tu n'as quasiment aucun dialogue, tout passe par le regard, la gestuelle. Moi j'ai été frappé vraiment par cette prestation parce que ça doit être très compliqué pour une comédienne de pouvoir intégrer tout ça. Comment tu as fait toi?
Moi quand j'ai lu le scénario, j'ai cru vraiment, et que surtout Camille m'a dit qu'on ferait le film ensemble, c'était comme un rêve qui se réalisait parce que il y a deux choses qui m'ont le plus parlé pour moi dans le personnage d'Anja, c'est d'abord son désir de fuir, de solitude, et parce que tout simplement moi depuis que je sais marcher, je m'enfuis et je me suis toujours j'ai toujours eu cette chose un peu mystérieuse comme ça de désir de fuite. Ça s'est transformé en fugue quand je suis devenue adolescente, mais voilà, dès que mes parents avaient le dos tourné, je me barrais de chez moi. Bien que j'ai grandi dans une grande ville, je partais même pieds nus dans la rue, et c'est une chose à la fois un peu marrante à raconter comme ça, mais qui m'est toujours aujourd'hui très mystérieuse.
Il y avait déjà un petit peu de d'Anja en toi, quoi, du coup.
Oui, d'une certaine façon, en tout cas, c'est vrai que c'est clairement de cette chose-là motrice en moi dont je me suis servie pour approcher le personnage et le rôle. Et en fait, aussi une chose qui peut-être aujourd'hui me, en fait, l'endroit où j'ai pas envie de fuir, c'est quand je tourne. Je suis jamais plus comblée que quand je suis sur un plateau de cinéma. J'aime tellement ça.
Mais tu te sens à ta place.
Voilà. Et en fait, c'est vrai que. Là, certes, bon, je parle pas beaucoup dans le film et tout ça, mais c'est le monde intérieur de cette fille qui est extraordinaire et qui m'a le plus attirée. Je me suis dit, c'est fou, cette fille, elle doit avoir un monde incroyable à l'intérieur d'elle. Et bien que je connaîtrais jamais, parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, bien que je connaîtrais jamais ce que vraiment cette fille peut, le monde dans lequel cette fille baigne et vit. Moi-même, j'ai pu profiter un petit peu de ces espaces-temps comme ça, et j'ai pu aussi partir dans un monde que je me suis inventé, et c'était génial, quoi.
Camille, les Cévennes, c'est un endroit que tu connais bien, tu l'as absolument magnifié avec des images superbes. Malgré tout, ton film reste aussi un peu un hommage à la maman d'Anja et tout ce qu'elle a enduré pendant ces 15 ans où elle a su sa fille dans les bois à tous les temps et toute la souffrance psychologique aussi qu'elle a pu vivre.
Oui, bah j'ai effectivement fait ce film d'abord pour parler d'Anja et de cette trajectoire très particulière, mais j'ai choisi de la raconter à travers le regard de la mère, parce que comme cette jeune femme dérangeait beaucoup les habitants de la vallée, au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, la situation s'est tendue au fur et à mesure. Au début, c'était une enfant de la vallée qui avait un problème et dont tout le monde se souciait, et puis au fur et à mesure, la situation s'est tendue parce qu'elle était de plus en plus intrusive et dérangeante.
Et elle est devenue le problème.
Et elle est devenue le problème de la vallée. Et bien sûr, dans ce genre de situation, c'est souvent sur la mère que les reproches tombent. Et on reproche le comportement de la fille à sa mère. Et donc sa mère s'est retrouvée seule, parce que le maire a été absent pendant toutes ces années où elle était dans les bois, à faire face à l'hostilité parfois des habitants, des voisins, des gens. Et elle-même, comme elle n'a jamais lâché, elle a continué à prendre soin d'elle, malgré tout, pour lui apporter à manger, pour ne pas que sa fille meure, les gens lui en voulaient de prendre soin de sa fille. Voilà. Donc, je trouvais que c'était très dur. Je l'ai vu aussi se retrouver de plus isolée, la mère dans la vallée, même avec ses vieux copains. Et donc, il me semblait important de rétablir quelques vérités et de montrer aussi comment c'était de vivre cette situation depuis le point de vue de la mère, voilà, parce que c'était elle qui était la plus exposée à la douleur de cette histoire.
Oui, parce qu'il faut dire que Anja, pendant toutes ces années, du coup, s'est introduit dans des maisons pour chercher à manger, des fois dans des excès peut-être de colère, de souffrance, a pu casser. Ça a partagé, ça a divisé justement les habitants de la vallée, où il y avait vraiment ceux qui étaient vraiment pour soutenir ou qui étaient là pour dire voilà, c'est une jeune fille qui est en souffrance, presque laissons-la pour ça. Et les autres qui disaient on peut pas continuer à vivre comme ça, avec la peur, avec se dire à chaque fois qu'on rentre chez soi, elle peut s'être introduite, avoir tout casser, les souvenirs, tout. Et c'est vrai que ton film, on peut comprendre tous les points de vue finalement, c'est ça qui est bien.
Oui, bah c'est tout à fait le cas, c'est-à-dire que la vallée effectivement s'est fracturée, on peut dire à peu près en deux, parce qu'il y avait d'abord des maisons sur lesquelles elle s'acharnait un petit peu, donc les gens qui habitaient ces maisons-là étaient vraiment de manière assez radicale, furieux, et voulaient qu'on arrête et qu'on enferme Anja, et puis d'autres, au contraire, ils voyaient une espèce de forme ultime de liberté et de radicalité et de beauté et de poésie, mais d'un autre côté aussi, ils pouvaient en faisant ça, nier un peu la souffrance de cette jeune fille. Donc chacun projetait un petit peu ce qu'il voulait y voir, mais c'est vrai que ça a fracturé des amitiés, ça a fracturé le lien dans la vallée. Et moi, j'ai voulu montrer que dans cette histoire, chacun pouvait avoir son point de vue sur la situation et que tous les points de vue étaient audibles à partir du moment où on était capable de se mettre à la place des gens. Et effectivement, quand on se met à la place d'une personne qui est violentée et qui est perturbée et sur laquelle Anja s'acharne, on peut comprendre qu'elle gueule et que dit ça va pas, c'est pas normal que je puisse pas rentrer chez moi, que j'ai peur, que mon enfant ait peur, que tout soit saccagé quand je rentre, j'ai pas beaucoup d'objets, j'ai pas beaucoup de biens et que toutes mes fringues, que toutes mes choses soient volées sans cesse, c'est insupportable. Et c'est vrai que là, tout à coup, la liberté d'Anja empiète sur la liberté des habitants.
Et c'est l'incompréhension qui peut régner. Du coup, pour se donner une petite idée quand même de ce qu'on est en train de parler, on va écouter la bande-annonce et on va revenir juste après avec vous. Sauvage, ça sort mercredi dans les salles et on revient juste après avec Lou Lampros et Camille Poncin. À tout de suite.
Anja, 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 c'est moi.
Anja, ma peau douce, si tu lis cette lettre, c'est que tu as trouvé l'endroit où je viendrai désormais te déposer à manger. Maman.
Qu'est-ce que tu fous là? Anja est vivant sauvage, tu la nourris comme un chat d'appartement? Ça marche pas du tout, votre truc.
Vous me racontez qu'elle vit seule dans la montagne,
qui a peur de tout, et désormais même de vous. Elle dit que les animaux lui parlent, les animaux ne parlent pas. Votre fille peut s'en sortir, vous le savez ça ?
Si on la drogue, si on l'enferme.
Allez, de retour pour notre spécial La Femme 2, un film avec Eric Caravaca, avec Jérémy Régnier, Mélanie Thierry, bien évidemment Arnaud Valois aussi. Chaque second rôle est pesé et un équilibre où chacun a sa place malgré tout dans le scénario. Donc ça, j'imagine qu'il y a tout le travail d'adaptation du roman qui a été fait là-dessus pour donner une importance à chaque second rôle. Pour le coup, David ?
Oui, alors moi j'ai un amour profond pour le second rôle. Et je dis à chaque comédien qui vient sur le plateau pour incarner comme ça, même deux jours, même une journée, je dis que chacun de ces personnages pourrait avoir leur propre film. Donc oui, il y avait un enjeu pour toutes les sœurs, pour toute la famille, pour...
Il y a cette jeune fille du premier plan, qu'on découvrira plus tard qui elle est et comment voilà, les choses évoluent, mais jusqu'à à cette jeune comédienne.
Oui, tous les personnages du film, même les quasi-muets comme Annette, la sorte de gouvernante de cette famille. Voilà, je voulais les penser comme des personnages à part entière. Tous des acteurs, qui bien souvent des acteurs de, et des actrices de théâtre que j'adore. J'étais journaliste de théâtre pendant 15 ans, donc j'ai eu l'occasion de les découvrir et d'avoir beaucoup d'amour et d'admiration pour eux. Et en même temps, les acteurs ont leur place, les personnages ont leur place. Parce que dans cette famille et dans ce monde-là, chacun doit être à sa place.
Et j'allais bien justement parce que dans la réalisation ou dans la mise en scène, il y a quelque chose de très théâtral justement, ça tombe bien que vous le disiez David, parce que j'ai trouvé que c'est un film qu'on pourrait très bien voir adapté aussi au théâtre, avec ce genre un peu de décor unique, avec tous ces personnages qui gravitent autour, mais aussi quelque chose de très théâtral parce que ça joue quoi.
Et ça donnera peut-être des idées à certaines personnes, je ne sais pas. Mais oui, c'est il y a une unité de lieu qui peut faire penser effectivement au théâtre. Il y a une attention pour le détail du dialogue, pour les petits mots qui peut-être semblent être anodins, mais ne le sont pas. Une construction comme ça, un peu par empilement, oui, qui est assez de nature assez proche du théâtre. Oui.
Et où chaque brique a son importance dans l'empilement, justement, Eric.
Jeanne Rosa, Sarah Le Picard. Oui. Voilà, les personnages secondaires qui jouent les sœurs qui sont absolument magnifiques. Jeanne, elle a une petite partition, elle est extraordinaire. Avec deux mots, une intonation, elle fait tout. Voilà. Non, on parlait des... Je reviens aux personnages secondaires qui sont hyper importants dans ton univers.
Eric, comment on peut le définir ce personnage, justement ?
C'est un personnage... Je sais pas si on peut toujours définir les personnages. C'est des gens complexes. Ce qui aurait été pas bien, c'est de simplifier un personnage comme ça, d'en faire un connard ou un type bon voilà, il est pas que ça, et c'est pour ça qu'on les gens sont, la simplification des personnages est toujours et pas que des personnages en général, la simplification c'est toujours assez meurtrier et pas toujours très intelligent, donc
et c'est cette complexité qui est intéressante à jouer pour un comédien.
Voilà, c'est surtout quelqu'un qui est aveugle à son endroit, et c'est ça qui est important. Alors j'allais dire qu'il faut, il faut jouer ça, c'est presque comme une comédie. Une comédie, vous jouez pas en essayant de faire rire. Là, vous jouez pas en essayant d'être un salopard. Vous jouez la situation. Et c'est ça qui fait le personnage. Beaucoup. Il faut être d'une grande sincérité. Voilà. La situation fait le reste, hein, j'allais dire.
Alors, on est à deux jours de la sortie du film. Donc, évidemment, vous avez vu le film, Eric. Quelle a été la scène que vous avez préférée?
Finalement, dans le film, on adore voir le personnage principal. Moi, j'aime beaucoup les scènes aussi de solitude. J'aime beaucoup notre première scène aussi, avec tous les frères et sœurs. Ça, vraiment, cette scène, elle est...
La distribution des enveloppes ?
Oui, la distribution des enveloppes. Et puis, j'aime beaucoup, par exemple, les plans d'Arnaud Valois, que je trouve formidable dans ce film, quand il est là, mécontent d'être lui-même aussi, mais en même temps pervers, en même temps... Très doux, très beau, enfin, terrifiant, quoi, finalement, aussi. J'aime beaucoup ces plans-là, ça m'a beaucoup touché. Et puis, Mélanie aussi, c'est dans la voiture, qui est là, qui veut partir et qui va partir. Et ça, j'ai trouvé ces moments de silence très chargés.
Ouais, j'ai trouvé il y a des plans, en tout cas, entre Mélanie et son petit garçon. Et les fils du couple, hein, très chargés en émotions, mais on vous laissera le découvrir dans le film. En tout cas, on vous invite à découvrir La Femme 2, c'est mercredi au cinéma. Merci infiniment Eric, merci David d'être venu nous en parler. Et puis à deux jours de la sortie du film, on se sent comment David, pour le mot de la fin ?
Fébrile et heureux, heureux de partager le film et que ce personnage se libère vraiment.
La Femme 2, mercredi dans les salles, merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Y a un problème ? Il est arrivé quelque chose ?
On a reçu des plaintes pour vol, violation de domicile et dégradation.
Vous entendez ce qu'on vous dit, madame ?
Vous l'avez vu où et quand la dernière fois?
Je vais lui parler.
Je sais pas lui parler. La vérité, c'est que t'es complètement paumé.
Si on est tous là, tous concernés par le comportement d'Anja, c'est pour essayer de trouver une solution. Parce que si on ne trouve pas de solution, d'autres s'en chargeront.
Oh putain!
Oh non, c'est pas vrai.
Elle a tout détruit là!
Y a que vous qui pouvez faire en sorte d'éviter que les choses finissent mal.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain, on recevra l'équipe du film La Petite Graine avec Louise Massin notamment qui sera notre invitée. On parlera également de Meurtre à Concarneau qui débarque sur France 3.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de La Quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.